Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, on ouvre le débat des grandes voix comme chaque soir avec Europe Soir, Charles Villeneuve ce soir dans le studio et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Soir.
Bonsoir.
Bien, on s'intéresse ce soir à un procès qui restera dans l'histoire et qui s'ouvre à partir de mercredi devant les Assises spéciales de Paris, le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. C'était il y a 5 ans et demi, 3 jours d'horreur, 17 morts, un pays marqué à jamais. 14 suspects comparaîtront pour leur soutien aux auteurs des attaques. Peut-être un premier mot, Charles Villeneuve, avec vous. Que peut-on attendre de ce procès, concrètement ?
Qu'il éclaire les zones d'ombre qui restent nombreuses et que l'enquête n'a pu éclaircir. Sur les armes, leur provenance, qui les a fournies, qui a coordonné les actions quasi simultanées à Charlie Hebdo, où il y a eu 12 morts, à Montrouge, avec l'assassinat de la policière municipale, et à l'Hypercacher, où il y a eu 4 morts. L'identité des commanditaires, on ne les a toujours pas, dont on sait que...
On connaît les auteurs présumés qui sont décédés, hein, ce sont les frères Kouachi et Amélie Koulibaly, et puis il y a 3 accusés qui sont toujours recherchés, visés par un mandat d'arrêt. On ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils ont été tués lors des bombardements et lors des attaques de la coalition en Syrie et en Irak. C'est Ayad Boumediene, compagne de Koulibaly, et les frères Mehdi et Mohamed Belhoussine. Voilà.
Oui. Et il y a aussi, évidemment, au Yémen, puisque vraisemblablement, Koulibaly a été briefé, enrôlé, formé et commandité à partir du Yémen, Al-Qaïda. Parce que vous avez les deux organisations islamistes dans cette affaire, Daesh et Al-Qaïda. Et puis, justement, beaucoup d'avocats, et pas des moindres, espèrent que le mobile, si vous voulez, politico-religieux, sera défini, approfondi.
Alors on va parler de l'état de la menace, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé sur le sujet aujourd'hui. Il y a eu des procureurs, et pas des moindres, puisque François Molin, c'était notre invité ce matin sur Europe 1, on va l'écouter dans quelques secondes. Gérard Carrérou, d'abord, sur l'attente de ce procès, parce que ce qui est inédit aussi, c'est que le procès, c'est une première, sera filmé. Est-ce que c'est aussi une manière d'en souligner la dimension historique ?
Oui, parce que vous le savez, il n'y a pas eu beaucoup de grands procès qui ont été filmés et dont la télévision a pu effectivement, ensuite, longtemps après, donner la diffusion. Je pense que pour les générations qui nous suivront, il est important d'avoir les images de ce procès, même si malheureusement, nous n'avons pas les principaux assassins, les principaux tueurs ne seront pas dans le box. Mais si vous voulez, moi, je voudrais juste dire un mot. C'était au moment des fêtes de fin d'année, ce 7 janvier, j'étais à New York.
Oui.
J'ai appris ça, je me levais, j'étais dans ma chambre avec le décalage horaire. J'ai appris ça.
Tétanisé, comme tout à chacun.
Je vais vous dire la vérité, j'ai pleuré. Et ma fille qui était là m'a dit « Papa, pourquoi tu pleures ?» Je lui ai dit « Parce que je connaissais Charb, qui a été parmi ceux qui sont tombés. Je connaissais Volinsky, que j'avais rencontré plusieurs fois. » Je connaissais donc ces gens personnellement. J'ai pleuré. Et j'ai compris que c'était quelque chose d'inédit et qui allait nous poursuivre pendant longtemps. Mais ce n'est pas la question.
Oui.
Votre question, ce n'est pas celle-là. La question...
dimension historique. Hollande disait il y a quelques jours, ce procès, c'est aussi important pour que les Français prennent la mesure de ce qui s'est produit et ce qui a été visé par ces attaques. C'est la liberté d'expression, c'est les valeurs de la République, c'est la laïcité et c'est aussi le droit au blasphème.
Oui, mais c'est ça, c'est exactement... Là, pour une fois, je partage le point de vue de François Hollande.
C'est assez rare pour être souligné.
C'est assez rare. Non, mais... c'est un homme qui sait effectivement analyser les situations. Je pense que ce n'est pas le procès, c'est une phase, c'est la guerre avec le terrorisme qui a commencé ce jour-là. Cette guerre avec le terroriste qui a été dénoncée par un certain nombre de nos responsables politiques. Ce n'est pas des attentats aveugles. Ceux qui sont tombés ce jour-là, ils avaient tous un sens. C'était des journalistes, les cibles avaient du sens. C'était les journalistes. C'était
l'autorité de l'État avec les policiers.
C'était les policiers, c'est-à-dire l'État.
Les Français de confession juive.
C'était les Juifs du supermarché. Ça montre, et c'est ça que je voudrais que le procès nous montre, c'est que ce n'est pas des attentats aveugles, on balance comme ça des bombes ou des kalachnikovs, mais qu'on avait eu un schéma, c'était le schéma de la guerre que le terrorisme radical islamiste a déclaré à la France.
Et de fracturer aussi la société française.
Et qui a continué.
C'est réussi par certains aspects. Alors, près de 6 ans après les meurtres qui ont marqué le début de la vague terroriste et provoqué tout de même, hein, je le rappelle, 258 morts sur le sol français. Quelle est la réalité de la menace aujourd'hui? On écoute le ministre Gérald Darmanin qui s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet.
La menace représentée par des individus adeptes d'un islam radical, sensible à la propagande, mais non nécessairement lié à un groupe constitué, devient un défi croissant pour les services de renseignement qui assurent aujourd'hui le suivi de 8132 individus inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Oui, il dit autre chose, hein, Charles Villeneuve, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il annonce que 32 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017 sur le sol français. Alors ça fait beaucoup, mais dans la réalité, c'est vrai que ça fait longtemps que la France, et c'est tant mieux évidemment, on s'en réjouit, n'a pas été frappée par un attentat ou une attaque de masse.
C'est vrai, et là on le
Est-ce
doit...
Est-ce que ça veut dire que la menace a baissé?
Non, d'ailleurs il vient de vous le dire. Non, la menace n'a pas baissé, elle existe, elle est double. D'une part, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le terrorisme endogène de faible intensité, qui est décuplé, si vous voulez, par la place que leur laissent les médias, général. Et ce terrorisme...
C'est l'individu isolé qui, avec un couteau...
C'est les attaques au couteau, par exemple, comme à Marseille en 2019, où vous avez un Tunisien qui est assis sur un banc, qui se lève et qui égorge une étudiante en médecine et sa cousine, infirmière. Et puis, c'est celle de la préfecture de police, à part un fonctionnaire habilité secret défense qui fait 4 morts en quelques minutes, notamment 3 policiers et une policière, en octobre 2019. Et ce sont des actes, si vous voulez, imprévisibles, susceptibles d'être mis en œuvre à n'importe quel moment. Et en général, dans les 8000 que, justement, vient de comptabiliser le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous avez beaucoup qui appartiennent et qui sont suivis, qui sont écoutés, et dont on voit de toute façon que certains, et notamment qui étaient détenus comme terroristes, qui ont été repérés par le renseignement pénitentiaire, évidemment répercutés sur la DGSI,
oui,
et qui les suivent à travers notamment le net.
La Direction
Internet,
Générale de la Sécurité Intérieure.
Qui cherchent à avoir des consignes, justement en Syrie, en Irak et au Yémen.
Alors on en parle dans un instant et on continue d'en parler de cette menace terroriste puisqu'il y a ce procès historique qui s'annonce. Mercredi, Charlie Hebdo, l'hypercachère et puis l'attentat de Montrouge. Et puis il y a cet état de fête qui est annoncé aujourd'hui par le ministre Darmanin de l'Intérieur. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours en studio avec le débat des grandes voix à 18h41. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on évoque la menace terroriste à 2 jours maintenant de l'ouverture du procès historique. Historique de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, la menace est toujours présente. C'est ce que disait encore ce matin sur notre antenne François Molins, l'ancien procureur de la République de Paris.
Je pense qu'on a toujours des raisons d'être inquiet, notamment quand on pense aux chiffres qui ont été donnés cet été sur la proportion de récidive, entre guillemets, par rapport à tous les gens qui revenaient de conflits en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Je vous renvoie aux chiffres qui ont été donnés, qui faisaient état de plus de 60% de gens qui remettaient ça finalement. Donc je pense qu'il faut être inquiet.
Moi, quand j'entends sa voix, à chaque fois, ça me fait des frissons parce que ça me rappelle les comptes rendus, vous savez, Gérard Carrérou, qu'il faisait à l'issue de toutes les attaques terroristes. Il était en poste, hein, comme procureur
oui,
république
ça a
de
été
Paris au moment des attaques et il a été formidable.
Ça a été un formidable procureur au moment. Et effectivement, c'est pour ça qu'on se souvient de lui avec émotion parce qu'on a l'émotion de ce dont il nous parlait.
Ouais.
Dans ses comptes rendus.
Alors, il évoque plusieurs menaces, François Molins. Il évoque les retours sur les théâtres d'opération que sont l'Irak, que sont la Syrie, que sont aussi la Libye, mais avec aussi une inquiétude particulière, la libération des premiers condamnés du djihad. Vous savez que l'an prochain, près de 60 djihadistes seront remis en liberté en France, et l'année suivante, encore une quarantaine.
Mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre, à la légère, quand on a eu cette discussion sur que faut-il faire avec ceux qui sont encore dans les camps. Qui sont contrôlés encore en Irak, etc.
Au moment faut-il les juger sur le sol français
Faut-il les juger sur le sol français ? Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut les juger sur place, là où ils ont commis leurs crimes. Beaucoup de gens ont
commencé... Ça a été le cas pour certains.
Oui, ça a été le cas pour certains. Mais quand on vous dit, quand le ministre Darmanin dit 8000 fichiers aujourd'hui dans le fichier terroriste... Non, mais je fais l'addition. 505 en prison et 700 et quelques en voie de radicalisation. Ça fait 10 000 personnes. Oui. C'est énorme.
À ceci près, si vous me permettez, Gérard, que les 8 000 ne sont pas des foudingues qui demain vont mettre
non,
une
bombe. Non, les
8 000 ne
sont pas
part,
des foudingues, hein. Mais les 8 000 ont des sympathies, sont des militants radicaux de l'islamisme radical qui peuvent, dans un certain type de cas, et ils ne s'en privent pas, fournir de l'assistance technique.
C'est
fournir
ça, c'est des... ce qu'on appelle les petites
oui,
mains.
C'est les petites mains
ce
du terrorisme.
Ceux qui sont dans les 14... dans le box des accusés à l'ouverture mercredi du procès.
Alors, d'où ma question. Comment assurer le suivi de ces radicalisés, de ces personnes aussi qui sortent de prison, mais qui ont effectué leur peine non,
mais
au
faut
regard
commencer...
de la loi, tout en préservant les libertés publiques
mais
de chacun
Mais parce que vous avez une direction spéciale qui s'appelle la direction de la détection et qui a ce suivi. Alors, ils ont pris un certain nombre de dispositifs pour ceux qui sont en liberté, qui sont déjà sortis, et dont on sait, avec le service de renseignement pénitentiaire, que déjà, si vous voulez, durant leur incarcération, ils se renseignaient, ils travaillaient justement sur l'éventualité de pistes et surtout de commanditaires. Mmh, et c'est en cela qu'avec le net, ils s'en servaient pour essayer d'avoir des informations par rapport à ceux qui sont restés dans les arrières syriens, si vous voulez, ou irakiens.
À ceci près qu'on a vu des gens qui étaient surveillés, qui parvenaient tout de même à passer entre les mailles du filet et à provoquer.
Mais regardez la compagne d'un des deux terroristes de Charlie, Madame Boumediene.
Oui.
Elle a réussi à passer.
Oui.
On avait retrouvé sa trace. Elle a réussi à s'évader de France.
Il paraît,
on a retrouvé sa trace dans un des camps. On a retrouvé sa trace dans un des camps. Elle fait partie de ceux qui se sont échappés de ce camp avec un certain nombre d'autres au moment des événements graves qui se sont passés, si vous voulez, en Irak. Ça veut dire que des gens de ce genre, c'est quelqu'un qui a une sorte de vocation à être un chef. Mais pour répondre à votre question plus complètement, c'est en amont qu'il faut commencer. C'est en amont. La menace... Les attentats qui nécessitaient une infrastructure logistique comme celle qu'on a vue effectivement à plusieurs reprises, c'est d'autant plus difficile parce que la DGSI a très bien travaillé. Mais ce qui est maintenant, c'est le terreau qui grignote, c'est effectivement ces mosquées qui sont avec toutes les semaines des discours pro-terroristes.
Donc vous faites le lien entre islam politique, séparatisme dans certains quartiers
mais bien
et terrorisme.
Mais bien sûr, l'islam politique radical, c'est l'antichambre du terrorisme.
Parce que le président Macron lui disait l'inverse il y a peu. Il disait, attention, le communautarisme, ça n'est pas le terrorisme.
Oui, il lui arrive de pas très bien sentir ça. Hein.
Charles Villeneuve.
Oui, non mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien dans ce qui est qualifié de temps en temps de territoire perdu de la République, qu'il y a des éléments susceptibles de toute façon de servir de petites mains.
Qui favorisent le terreau.
Voilà. Et il faut aussi quand même signaler le fait que la DGSI avait mis au point un certain nombre de dispositifs pour les suivre plus attentivement, notamment les libérer, et que le Conseil constitutionnel a pris des dispositions contraires en considérant que les libertés publiques étaient atteintes.
Oui.
Et ils sont assez contrariés, il faut dire, au sein de la DGSI, sur cette interdiction, en quelque sorte, de suivi. C'est un suivi assez, non pas oppressant, mais extrêmement technique, évidemment, qui allait assez loin dans l'immixtion, si vous voulez, de la vie privée de ces anciens détenus.
Merci Charles, on se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On partira au Liban juste après la pub parce que Emmanuel Macron est attendu sur place ce soir et certains critiquent l'omnipotent président français sur place. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, la France au chevet du Liban. On en parle ce soir dans le débat des grandes voix avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Emmanuel Macron est ce soir de retour à Beyrouth, comme il l'avait promis lors de la visite début août après la terrible explosion qui a ravagé la ville, souvenez-vous.
Je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas l'obtenir, je prendrai mes responsabilités avec vous.
C'était un moment assez dingue, ça d'ailleurs. Emmanuel Macron, dans les rues, acclamé par la foule qui lui demandait carrément « Virez-nous tous ces politiques qui dirigent le Liban et qui sont corrompus depuis des dizaines et des dizaines d'années ». La France est-elle dans son rôle, Gérard Carrérou, ou en fait-elle trop ? On a entendu notamment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dénoncer une forme d'ingérence du président Macron.
Au début, j'ai eu un peu ce sentiment. Je me suis dit, au fond, est-ce que... Il n'en fait pas trop. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit non. C'est dans la mission... Les liens entre la France et le Liban sont des liens d'une nature tout à fait différente des liens que la France a avec 50 ou 80 autres pays à la surface du globe. Il y a l'histoire. Et l'histoire fait que il y a eu ce mandat, effectivement, donné à la France pour la Syrie et le Liban. Il y a cette communauté de langues. Il y a énormément, il y a 250 000 Libanais qui sont effectivement, qui naviguent entre le Liban et la France. Il y a énormément de gens qui font partie de notre élite, qui sont d'origine libanaise. Il y a des liens particuliers. Et je comprends que le chef de l'État français se sente investi d'une mission. Alors, on peut parler d'ingérence. Je ne pense pas que ça soit de l'ingérence. Je pense qu'il voudrait vraiment trouver une solution. La trouvera-t-il ? C'est autre chose. Parce que, vous savez, prenons un exemple. Il veut parler à tout le monde, y compris au Hezbollah.
Oui.
Mais les autres, par exemple en Europe, les autres pays et aux États-Unis considèrent que le Hezbollah, de toute façon, c'est une organisation terroriste à la solde de l'Iran.
Mais qui compte aujourd'hui politiquement,
oui,
et
bien
qui
sûr,
est dans
qui
le gouvernement.
Compte énormément. Donc, il a raison de vouloir parler au Hezbollah, mais en même temps, les autres disent qu'il va se faire rouler dans la farine.
Alors,
par le Hezbollah.
Le Hezbollah, on va en parler. D'abord, peut-être un clin d'œil à souligner, Charles Villeneuve, un clin d'œil de l'histoire, puisque la proclamation de l'État du Grand Liban sous mandat français, c'était le 1er septembre 1920, Emmanuel Macron retourne au Liban, à Beyrouth, le 1er septembre 2020. Voilà, c'est le hasard des choses, mais c'est un clin d'œil de l'histoire. Votre sentiment, en fait-il trop, le président français ?
Non, moi, je ne crois pas du tout. Au contraire. Il reprend une filiation qui a été largement entretenue et soigneusement entretenue par Jacques Chirac, abandonnée par les deux autres présidents qui ont succédé à Jacques Chirac. Et de toute façon, comme le soulignait justement, je trouve, Gérard, si vous voulez, c'est une vieille histoire, c'est une relation séculaire entre la France et le Liban. Et surtout, il ne faut pas oublier que, si vous voulez, c'est une extension de nous-mêmes au-delà même de la Méditerranée. Et il faut y ajouter, et tu l'as souligné, Gérard, la diaspora libanaise. La diaspora libanaise qui contribue largement en France par leur succès dans le commerce, le business, les sciences, la littérature, Amine Malouf, la musique notamment.
Le journalisme, même.
Mika, non, le journalisme, idem aussi, mais je ne suis pas libanais.
Je parlais pas seulement de toi. Là.
Oui, Férouz,
donc,
bien sûr.
Donc il y a une raison profonde. Maintenant, il y a les défis du Liban. Il y a le défi interne et ce qu'ils ont fait de leur constitution, qui est une constitution réglée par des constitutionnalistes français et qui a été aménagée plusieurs fois par la France, avec l'aide de la France. C'est la raison pour laquelle Macron n'est pas étranger et n'est pas considéré comme un étranger.
Mais Gérard Carrérou évoquait la problématique du Hezbollah. Vous savez que le chef du Hezbollah, qui s'appelle Hassan Nasrallah, a critiqué l'influence française et il dit ceci, qui peut être entendable d'une certaine manière. Quelle aurait été la réaction si le président iranien ou le président syrien avait appelé à un nouveau pacte politique ? Mais quand cet appel, dit-il, émane d'un autre État, considéré par certains comme un pays ami, en l'occurrence la France, personne ne s'y oppose.
Qui le paye ?
Voilà ce que
Hassan
dit le Hezbollah.
Nasrallah. Qui le paye ?
L'Iran.
Qui a formé le Hezbollah ?
L'Iran.
Militairement.
L'Iran.
Les gardiens de la révolution, les Pasdaran. À Baalbek, justement, dans cette cité absolument antique, merveilleuse, formidable, durant toute la guerre de 82. Bon, j'y étais, je les ai vus. Imad Mughnini, le terroriste numéro 1 qui a fait l'attentat du 23 octobre 83 contre les parachutistes français de la position Drakkar et les Marines, 252 morts et 58 parachutistes français. Qui ? C'est le Hezbollah. Qui a assassiné le président Hariri, très proche ? C'est bien sûr le Hezbollah. Et le tribunal international a désigné l'un d'entre eux, mais il n'est pas allé plus loin. Pour une raison simple, c'est que le principal conseiller du principal juge, de toute façon, du tribunal international, est chiite. Et a évidemment des accointances et un cousinage avec le Hezbollah. Qui tient l'aéroport ? Le Hezbollah. Qui tient les comptes publics ? Le Hezbollah. Qui tient les frontières ? Le Hezbollah.
Et le Hezbollah tenait
c'est
aussi
un
le
État,
port dans lequel elle
le
a eu
Hezbollah
l'explosion.
Est plus qu'un Gérard parti Carrément. Politique. C'est pour ça que quand Macron dit effectivement il faut que les partis politiques changent, il faut qu'ils deviennent des réformistes, etc. Mais il a affaire là à quelque chose qui n'est pas seulement un parti politique, mais qui est en même temps le champ de l'aide sociale, parce que les gens n'ont plus rien à manger, et c'est le Hezbollah, avec l'aide de l'Iran, qui leur donne à manger, et puis le Hezbollah a sa propre armée.
Oui.
C'est un peu comme les protestants. Les protestants en France, au XVIe siècle, au plus fort, lorsqu'ils possédaient une véritable armée, des ports, etc. C'est ça le Hezbollah au Liban. Et pour en sortir, c'est pas simple.
Charles Villeneuve, le mot d'affin.
Oui. Alors, si vous voulez, tout en étant à leur côté, la France et Emmanuel Macron essaient de changer le pacte, ce fameux pacte justement, autour de la constitution confessionnelle.
Le
Parce que
laïque.
Ce sont des clans et des grandes familles qui est dans, on le voit, le peuple est dans la rue, pas seulement après l'explosion du 4 août, bien avant, depuis 2016, quasiment, le peuple est dans la rue. Et aujourd'hui, c'est le petit peuple, parce que la classe moyenne libanaise, composée surtout de chrétiens, a une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. Elle se reconvertit facilement en exilant. Ceux qui restent, ce sont tous les autres, et ils crèvent de faim.
Merci Charles, merci Charles, merci Gérard Carrérou. Le débat des grandes voix, c'est chaque soir à partir de 18h30. Au revoir.
Europe 1, Julien Bugier.